Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté l'affaire Alexandre Sarré, du nom de cet avocat escroc qui, en 1931 à Marseille, s'avère être un tueur en série qui a tué au moins 3 personnes, et sans doute 5, en instrumentalisant 2 sœurs immigrées allemandes, les sœurs Schmitt. Crime pour lequel il a été guillotiné, et une histoire qui, il y a quelques années, vous a inspiré pour en tirer un roman, Charles Bottarelli, un roman qui s'appelle « Un assassin s'est distingué », paru aux éditions Phoenix d'Azur, et je signale votre dernier livre, « L'honneur de Benjamin Ulmo », aux éditions Sudaren. Je précise, Monsieur Bottarelli, qu'il y a eu un livre, et il y a eu un film sur cette affaire, oui, avant que vous-même ne vous penchiez dessus. Hein.
Le film, c'est Le Trio Infernal.
Oui.
Que je n'ai pas vu, d'ailleurs.
De Francis Giraud, c'est ça?
De Francis Giraud, oui.
Sorti en 74, c'est Piccoli qui jouait Alexandre Sarré.
Piccoli qui jouait Sarré, oui.
Alors vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce dossier? Je précise que vous êtes...
Quand j'ai lu cette affaire, quand j'ai lu les comptes rendus officiels, disons, les pièces du procès, je me suis dit qu'on avait là affaire à un personnage absolument exceptionnel, par l'énormité de son culot, l'énormité de son intention délibérément malveillante, que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, que ça méritait un roman, si vous voulez.
Et vous êtes allé aux archives consulter le dossier d'instruction?
Consulter les archives judiciaires, et parce que ça se situait dans le cadre d'une commande qui m'avait été faite par un éditeur qui s'appelle les éditions de Bourré, qui voulait que je fasse un compte-rendu sur un certain nombre d'affaires criminelles intéressant la région, le Var et les Bouches-du-Rhône, intéressant la région, donc, et qui auraient été jugées entre le milieu du 19e siècle et nos jours. D'accord. Donc c'est comme ça que j'étais tombé sur l'affaire Sarré, et que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un roman, parce que c'est vraiment énorme.
Parce que c'est une affaire qui n'a pas de célébrité dans votre région?
De célébrité particulière, non. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans le bonhomme, mis à part la violence de son comportement, c'est qu'il était l'amant des 2 sœurs Schmitt. En même temps, ou l'une après l'autre, ça j'ai pas pu le définir, mais enfin, c'était ses 2 maîtresses, quoi. Mmh. C'était un ménage à 3 avec 2 sœurs, en quelque sorte.
Alors, sur ses motivations à lui, on peut résumer les choses ainsi, c'est ce que j'ai fait, il tue pour l'argent. Mais enfin, tous ceux qui aiment l'argent ne tuent pas 5 fois. Donc lui, qu'est-ce qui est son ressort? Qu'est-ce qui le rend à ce point cupide? C'est quoi son histoire?
Il veut appartenir à la bonne société marseillaise. Il fréquente les patrons d'industrie, les hauts fonctionnaires, tout ce qui compte un petit peu dans la ville. Donc il veut se hausser à leur niveau, si vous voulez.
Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de se hausser à leur niveau, puisqu'il est avocat d'affaires? C'est déjà pas mal comme situation.
Il a soif d'être connu et reconnu. Donc il fera tout pour ça, et il a bien compris que s'il peut arriver à ça par l'argent. Il y a quand même une raison peut-être un peu plus discrète, mais bien compréhensible. C'est qu'il est né, il est originaire de Trieste. Alors Trieste, à ce moment-là, comme vous le savez, c'est nulle part, quoi. C'est ni italien, ni autrichien, ni rien du tout. Et cette soif de reconnaissance, elle est peut-être aussi liée à l'anonymat de son origine.
Mmh. Et il allait vraiment devenir député?
Il avait déjà essayé une fois, ça n'avait pas marché, mais il n'était pas exclu que... Oui, c'était pas exclu. Rien ne permettait de penser qu'il serait battu. Il pouvait le devenir.
Il est aussi, alors ça c'est finalement intéressant ce que vous nous dites, parce que à la fois il cherche de la légitimité, et donc pour ça il a besoin d'argent, et en même temps son premier argument pour pour faire taire les deux sœurs, c'est que il est célèbre, qu'il est connu, qu'il est protégé.
Oui, 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 effectivement. Et quand on découvre, quand le propriétaire de la villa d'Aix où ont eu lieu les crimes et la dissolution dans l'acide sulfurique, quand il découvre les traces d'acide sulfurique dans la maison, et qu'on lui dit, ben, il faut porter plainte contre le précédent occupant, et il répond, mais vous n'y pensez pas, Maître Sarré, vous vous rendez compte, c'est pas possible que ce soit lui. Il avait une notoriété bien établie. Quoi.
Alors, lui a été guillotiné. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les sœurs Schmitt?
Non, personnellement, non. Je n'ai pas eu la curiosité de me renseigner, donc je ne sais pas.
Elles ont été bannies, donc on peut supposer qu'elles ont été expulsées de France.
Oui, oui, quoique elles ont essayé de donner des gages de bonne volonté pendant qu'elles étaient là, puisqu'elles étaient employées, elles étaient couturières et elles étaient employées dans un atelier qui confectionnait des vêtements militaires, donc elles faisaient les vêtements des militaires français qui combattaient leurs propres compatriotes.
Alors, si on cherche leur responsabilité, bon, la justice dit qu'elle est marginale, puisqu'elle les condamne à 10 ans de prison chacune. Est-ce qu'elles ont couvert les crimes et les escroqueries? Est-ce qu'elles ont participé à leur organisation? Est-ce qu'elles ont été naïves, dépassées, faibles?
Je crois qu'elles ont été manipulées par Sarré, puisqu'elles étaient deux sœurs égarées complètement en France, qui n'avaient aucune ressource propre sauf leur travail, et qui ne connaissaient personne sauf Sarré, et qui par conséquent étaient facilement manipulables. Mmh. Et comme Sarré était doué pour la manipulation, ça pouvait se terminer comme ça.
Mmh. Donc, au fond, elles comprennent pas bien où il veut en venir, mais elles l'accompagnent jusqu'au bout, quoi.
Oui, oui, oui. Oui, elles n'étaient pas à l'origine des manigances, mais elles les ont accompagnées.
Elles ont vendu leur charme aussi à son égard.
Oui. Absolument.
Et lui exerçait une forme de droit de cuissage, quoi.
Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il subvenait à leurs besoins financiers, moyennant le droit de cuissage, oui.
Et la complicité dans les escroqueries et les crimes.
Oui.
Officiellement, il a tué Louis Chambon, il a tué Noémie Ballandreau, qui était la maîtresse de Chambon, on a bien compris par nécessité, et il a tué aussi, empoisonné, enfin ils ont tué ensemble, la tuberculeuse Magali Herbin. Les maris de ces dames, il n'est pas condamné pour ça, mais on n'a pas beaucoup de doutes.
Parce que quand on a découvert les autres crimes, on n'a pas trop cherché apparemment. Ça suffisait pour l'envoyer en assise, mais on n'a pas trop cherché. Parce qu'on dit trois crimes, il a été condamné pour trois crimes, mais exactement combien a-t-il commis, on ne sait pas. Parce qu'en particulier, en ce qui concerne les escroqueries et l'assurance, il avait commencé par son propre cordonnier. Un cordonnier chez qui, de temps en temps, il laissait ses chaussures à réparer, qui était un pauvre type gravement atteint par la tuberculose, qui n'en avait plus pour longtemps, et il s'est dit qu'il pourrait lui faire souscrire une assurance vie à son profit. Seulement, au lieu de l'envoyer à la visite médicale, au lieu de l'envoyer lui, le cordonnier, il avait envoyé un de ses complices, qui était aussi son obligé, un ancien charcutier qui avait sauvé sa boutique grâce au conseil de Maître Sarré. Et donc le charcutier s'est fait passer pour le cordonnier. Le charcutier était en pleine santé, alors que le cordonnier était moribond. Alors, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait des choses à faire du côté des assurances-vie et du côté de l'escroquerie à l'assurance. Et il en a profité. Et il avait fait ses essais avec le cordonnier.
C'est pas le premier hein, à faire ça. C'était à faire signer des assurances sur la vie pour gagner de l'argent. Mais de toutes les histoires que j'ai racontées sur ce thème-là, on a la preuve que si on le fait une fois, ça marche. Mais dès qu'on veut reproduire, on rentre dans un engrenage qui inévitablement conduit à la prison. Alors, l'usage de l'acide sulfurique pour dissoudre les corps, au début du XXe siècle, c'est pas courant.
Oui, en effet, c'est pas courant. D'autant plus que les compagnies d'assurance entraînent non pas trop de moyens de communication, il n'y a pas, l'usage de l'informatique à l'époque, et ça commence à devenir difficile pour lui quand une compagnie qui a été spoliée prévient ses confrères par courrier.
Mmh. L'usage de l'acide sulfurique pour dissoudre les corps.
Oui, alors là, ça, je me pose la question parce qu'étant donné que c'est une pratique de la mafia, je ne sais pas si il s'est inspiré de la mafia ou si c'est la même mafia qui a repris sa recette.
Mais ça, ah, manifestement, ça marchait pour les vaches.
Oui.
Est-ce que je peux vous dire, moi, là aussi, sur la base d'histoire que j'ai déjà racontée de cadavres dissous dans l'acide sulfurique, c'est une technique qui est moyennement efficace. Il a quand même eu de la chance, parce que moi je connais des affaires où on a mis le cadavre dans l'acide sulfurique et puis il est resté plein de morceaux.
Oui, parce que, si j'ai bien compris, ça entraîne la fabrication d'une espèce de gelée. Oui. Il est difficile de se débarrasser. Les os et la viande terminent en gelée, et puis la gelée est difficile à éliminer.
Quelles conséquences sur les élections, vous le savez, ça? Parce que donc, le candidat favori file en prison et sous la lame de la guillotine. Ça fait un sacré raffut politique, je suppose.
Et oui, ça a secoué la ville. D'autant plus qu'il avait quand même la précaution de se constituer un solide réseau d'obligés. Il avait un carnet d'adresses abondamment fourni et c'est sûr que ça a dû ébranler quelque peu la ville.
Dernière question. Les deux sœurs sont allemandes. On est en 31, donc pile au milieu de l'entre-deux-guerres, à Marseille. Est-ce qu'il y a un contexte politique international là? Est-ce qu'il y a quelque chose à situer du côté des relations entre la France et l'Allemagne dans cette période particulière?
Les deux sœurs dans la presse ne sont plus appelées les Allemandes, mais les Bosch. Ce sont les sœurs Bosch.
Donc il n'y a pas de souci, on peut s'essuyer les pieds dessus.
Ah oui.
Je vous remercie infiniment, Charles Bottarelli, et je renvoie nos auditeurs à votre livre « Un assassin si distingué » aux éditions Phénix d'Azur, qui donc n'existe plus, mais tous les livres désormais ont un avenir sur Internet. Nous, c'est là qu'on les achète.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.